Et voilà, deuxième partie d'émission Ondes Noires, toujours sur Agora FM. Et il me semble que nous restons en Scandinavie, Jacques.
Effectivement, avec un nouveau venu dans le polar nordique, il a la particularité de n'être ni suédois, ni norvégien, ni même finlandais, même si son roman se déroule dans ces trois pays. Il s'appelle Olivier Truc, il est français et journaliste dans le civil. Tout commence à Kautokeino, en Laponie. Après plus de 40 jours de nuit,
Ça fait drôle.
ben oui, 40 jours de nuit presque absolue, et la disparition, ou plutôt le vol d'un tambour sacré, un tambour de chaman. Chaman, Sami, évidemment, qui sont donc les habitants de la Laponie. Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le roman s'appelle Le Dernier Lapon.
Tu as oublié de préciser l'éditeur aussi?
Et qu'il est publié chez Météo Noir, et donc qui n'est traduit par personne, puisqu'en fait, il a été écrit en français par Olivier. Les Samis, donc, je vous le disais, c'est le peuple ancestral de Laponie, bien avant que les envahisseurs du Sud ne viennent coloniser ces éleveurs nomades. Peu après ce vol de tambour sacré, la mort d'un éleveur de rennes va venir un peu compliquer la situation. Mais va nous permettre, à nous, de découvrir de nouveaux enquêteurs. Clémette, qui est un flic lapon, plutôt jeune, et sa collègue du Sud, à peine sortie de l'école de police, Nina. Quand je dis du Sud, c'est qu'elle vient d'Oslo, qui est quand même 1600 km plus bas. Ils sont tous les deux membres de la police des Rennes. Alors leur juridiction...
C'est beau, la police.
C'est la police des Rennes, c'est très beau, oui.
Ah oui.
Leur juridiction est assez vaste, en fait, parce qu'ils ont un territoire immense, mais elle est plutôt limitée aux conflits entre éleveurs. Pourtant, c'est bien eux qui vont finalement mener et résoudre cette double enquête. Parfois à l'encontre de la police officielle. Alors c'est un roman qui est foisonnant. On sent que l'auteur, qui vit la plupart du temps à Stockholm, a accumulé une quantité impressionnante de documentation sur les Samis, sur la colonisation de leurs terres par ceux d'en bas au XVIIIe siècle, et sur la vie et les modes de vie des éleveurs de rennes, sur la politique actuelle dans cette région, avec les affrontements entre les mouvements autonomistes samis, qui en ont marre un peu de la mainmise de Stockholm, Oslo, sur leur vie, et puis les partis d'extrême droite, qui voudraient bien quasiment éradiquer les samis, qui finalement les empêchent de vivre normalement. Et puis, car dans notre monde, ben, c'est bien souvent le cas, ces samis, ils n'ont pas de pétrole, ils ont des idées certainement, mais ils ont surtout des ressources minières importantes. Et nos industriels préférés, en fait, ben, ils feraient tout pour faire main basse sur ces ressources minières, ces sources de profit, en dépit des conséquences écologiques, ethnologiques, que ça pourrait avoir, qui sont bien le cadet de leurs soucis. C'est vraiment, donc, là, Olivier Truc nous propose un roman vraiment bien mené. Alors, il a une tendance à beaucoup expliquer, comme pour nous restituer un peu tout ce qu'il a appris. Mais pourtant, il réussit un roman policier, un thriller presque, si ce mot n'était pas devenu si péjoratif. Disons, donc, un polar dont on tourne les 430 pages avec une grande avidité.
Alors, on va peut-être parler d'un page-turner.
D'un page-turner, voilà. Parce qu'en fait, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'éleveur, de tambour sacré, qui aurait été découvert par Paul-Émile Victor. Et puis donc, on a de longs périples en motoneige, par la douce température de moins 20 degrés. C'est finalement donc un très bon mix de polar ethnologique, un petit peu à la Tony Lehrman.
Tony Lehrman qui parlait, lui, des Indiens d'Amérique avec ses enquêteurs Jim Shea
et
Joe Lipporn.
Voilà. C'est aussi un petit peu un que sais-je sur la Laponie et un guide du routard. Car en plus de tout ça, l'auteur, lui, nous donne quelques bonnes adresses et nous donne absolument envie d'aller faire un tour dans cette contrée encore assez préservée malgré tout. Il faut quand même prévoir quelques vêtements chauds et une lampe de poche, car ben, il ne fait pas bien chaud, je disais moins 20 degrés, ils sont contents quand il fait moins 20 degrés. Et puis si on en croit les têtes de chapitre, alors je commence, chapitre 6, mardi 11 janvier, lever du soleil 11h14, coucher du soleil 11h41, 24 minutes d'ensoleillement.
Et encore s'il fait soleil.
Voilà, ça finit un peu mieux, vers la fin du roman, vendredi 28 janvier, lever du soleil 9h02, coucher du soleil 14h02, 5 heures d'ensoleillement, et effectivement... Si jamais il y a du soleil, parce que c'est plutôt de lumière, disons.
Voilà, oui. Et au fait, il y a de la gastronomie, parce que tu parlais de quelques bonnes adresses.
Ah bah, ils mangent du rennes, entre autres. Oui, il y a quelques plats qui ont l'air tout à fait aimables.
La confiture de baie polaire.
Voilà, donc Olivier Truc, Le Dernier Lapon, publié chez Météo Noir.
Un petit peu de musique,
Un
Jacques?
petit peu de musique, donc avec le plus norvégien des guitaristes de blues, en tous les cas celui qu'on préfère, qui est un habitué de l'émission, Bjørn Berge. Le morceau, tout comme l'album dont il est extrait, s'appelle Blackwood. Écoutons-en quelques instants.
Aujourd'hui, ce n'est pas Frédéric Prieux qui va nous faire la chronique BD, mais Jacques. Jacques, de quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Eh bien, en fait, d'un roman et d'une BD, donc tu viens de le dire, qui sont sortis à peu près en même temps cette fin d'été. Le roman, donc, est un roman de François Tomaso, et la BD est une adaptation des aventures de Borot, reporter photographe, les romans fameux de Franck et Vautrin. Ils ont tous les deux, pour sujet, du moins c'est pour ça que j'en parle en même temps, en partie au moins, la guerre d'Espagne. Celle où les nationalistes, que on ne tardera pas à appeler franquistes ou fascistes, ont renversé les républicains en 1936. Ils sont aussi, tous les deux, les deux héros, sont des reporters. Alors on va commencer par la BD. Elle est intitulée « Le temps des cerises, tome 3 ». Elle correspond à la fin du deuxième cycle des aventures de Borot reporter, qui s'appelait donc « Le temps des cerises ». Mais en fait, on peut la lire tout à fait indépendamment des autres, surtout qu'en plus, elle finit à la fin du tome 3. Alors, les aventures de Borot sont assez copieuses. Les romans font plus de 600 pages. Il fallait bien 3 tomes pour les adapter. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, Emma, c'est Dan Frank, l'un des deux auteurs, lui-même qui signe le scénario. Les dessins étant à la charge de Marc Weber. La collection elle-même est supervisée à la direction artistique, excusez du peu, par un certain Enki Bilal. Gage quand même de qualité. C'est lui d'ailleurs qui dessinait, à la parution des romans originaux, qui faisait le dessin de couverture. Et d'ailleurs, en fait, il suffit de regarder la magnifique couverture de ce roman pour se faire une idée du plaisir que l'on va avoir.
Ce qui est rigolo, c'est que tu as dit roman alors que c'est la BD, là.
La BD, oui, effectivement. Du plaisir qu'on va avoir à partager ces quelques 50 pages avec Borot, ses compagnons, compagnons d'armes, son Leica, ses nombreuses amies.
Amis ES.
Amis IES, voilà. En partie dans une Barcelone, hélas, à feu et à sang. Alors, le dessin est plutôt classique, sans être quand même dans le style ligne claire. Les cases sont très régulières, avec des bulles, des beaux aplats de couleurs, et surtout, de nombreux gros plans de personnages. On sent que Weber aime bien dessiner ses personnages, et il leur donne de dessiner les visages, et il leur donne vraiment des expressions superbes, même pour les plus salopards. C'est une belle manière, en fait, de se plonger dans l'univers de Franck et Vautrin, et de leur Blémia Borowitz, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, les autres, évidemment, sont très probablement conquis d'avance. Alors, je vais passer maintenant au roman dont je vous parlais. C'est un roman de François Tomaso, qui est publié dans l'Archipel, aux éditions L'Archipel, dans une nouvelle collection de romans, disons, historiques, intitulée Cœur noir. Bon, c'est une histoire relativement proche, celle du siècle dernier, ou du début du siècle dernier.
On parle du XXe siècle.
Du XXe siècle, c'est ça. Oui, c'est-à-dire il n'y aura pas d'enquêteur chez César ou Louis XIV ou autre. Le roman s'appelle Les Anneaux de la Honte et il commence aussi à Barcelone en 1936 quand les Républicains tentent de monter des Jeux Olympiques alternatifs aux JO officiels dans le Berlin d'Hitler. Albert Grosjean, qui est le héros de ce roman, est journaliste dans un journal d'obédience communiste et il est là pour soutenir l'événement. Mais le putsch du général Mola va annihiler tout ça. Et Grosjean va se retrouver correspondant à Berlin pour couvrir ces Jeux Olympiques il voulait absolument pas aller. Des Jeux Olympiniques, d'ailleurs, j'avais écrit, ce qui n'est pas plus mal. Mais il a aussi une mission secrète aux ordres d'un certain Jean Moulin, qui était à l'époque haut fonctionnaire dans les ministères à Paris. Et là commence un roman à suspense, un roman d'espionnage dans lequel François Tomaso va nous raconter avec beaucoup d'habileté ces Jeux Olympiques qui furent tout de même un peu spéciaux, tant du côté sportif que du côté politique. Avec la victoire de Jesse Owens, qui fut cette gifle virtuelle au petit moustachu, c'était le moment effectivement le plus emblématique dont tout le monde se souvient, mais il y en a bien d'autres. On reviendra de temps en temps en Espagne, avec quelques anecdotes, si j'ose dire, sur la politique de non-ingérence menée de main de maître par les Anglais et suivie avec, disons allègrement, par le gouvernement français. Alors il y a un petit côté James Bond dans cet Albert Grosjean, c'est un espion intrépide, il réussit beaucoup par les femmes. Par contre, on peut dire qu'il défend des convictions qui déplairaient fortement aux héros de Ian Fleming. C'est une bien belle réussite, ce roman. Tomaso nous décrit vraiment bien tous ces petits événements qui ont fait que 3 ans plus tard, il y aura la guerre. Mais malheureusement, en fait, si c'est une bien belle réussite, ce n'est peut-être pas la dernière fois que les sportifs et les journalistes compris se compromettront avec des dictatures et des autres politiciens totalitaires. Et Tomaso pourra probablement nous faire un polar sur la Coupe du Monde en Argentine ou sur les JO en Chine ou je ne sais quoi d'autre.
Bah d'ailleurs, on peut évoquer ce qui fut un de nos coups de cœur, Mapuche, et Caril Ferré évoque dans son travail sur les grands-mères de la place de Mai, les Jeux Olympiques de 73 et tous les non-dits et tous les gens qui se sont cachés la face pour porter haut, comme on dit, les couleurs du sport. Voilà.
Voilà, donc les Anneaux de la Honte de François Tomaso, publié à l'Archipel.
À l'Archipel, dans une nouvelle collection. Ben justement, nouvelle collection, moi je vais vous donner quelques petites news de la planète polaire en ce début d'automne. Donc, une nouvelle maison d'édition chez Flammarion, elle s'appelle Ombre Noire. Un premier roman vient de sortir, Dans le ventre des mers, de Marat Le Dain, un autre en octobre, sobrement intitulé 41, d'un Mexicain qu'on ne connaissait pas, Rogelio Guedea. Mais on en reparlera avec la directrice de cette collection, de cette maison d'édition, Nelly Bernard, dans notre prochaine émission. Toujours dans le côté éditeur, on va parler de la mythique collection de poches, une des plus anciennes, la petite collection jaune, Le Masque. Elle fait peau neuve et devient, elle change de nom un petit peu, elle devient Masque Poche avec un nouveau look, délicieusement désuet, mais résolument moderne. Et puis une programmation, on va dire, éclectique. Ils l'annoncent eux-mêmes, toutes les couleurs du noir. Ceux qui ont fait leur succès, le font comme on dit, avec en octobre Un voile au narce Jacques, Les 39 marches, vous savez, celui adapté par Hitchcock. Je parie d'ailleurs que vous ne connaissez pas l'auteur de ce roman, Les 39 marches.
Si, parce qu'on en a parlé dans cette émission il y a quelque temps.
Voilà, il s'appelle John Buchan. Au même moment, paraîtra des romans historiques, mais aussi des contemporains, et non des moindres, puisque dans les premières parutions, on nous annonce un Philippe Kerr et un Fred Vargas, qui s'appellent Les Jeux de l'amour et de la mort, ne nous trompons pas. Et puis quelques mots sur les festivals, ça recommence en août, ça s'était un petit peu calmé, en septembre il n'y en avait pas eu beaucoup non plus. Donc pas très loin de chez nous, les 6 et 7 octobre, il y a le festival de polar de Villeneuve-les-Avignon dans la Chartreuse et cette année un festival spécial cinéma avec le grand spécialiste François Guérif qui présentera entre autres Michael Cheese, réalisateur de l'excellent Get Carter, en français La Loi du Milieu, mais on pourra aussi rencontrer Jerry Stahl, Tim Willox et parmi nos auteurs préférés français, Marcus Malt et Marin Le Dain. Et puis, si vous avez envie de vous faire un petit week-end dans la Ville Rose, eh bien, vous pourrez aller le week-end d'après, c'est-à-dire donc, si je ne m'abuse, les 13 et 14 octobre, à Toulouse. Il y a donc Toulouse Polar du Sud. Et là, on est dans le côté plus Polar du Sud, justement, et roman un peu hispanique, puisque beaucoup d'Espagnols, mais aussi, on aura la chance de rencontrer le Chilien Ramón Díaz Eterovix.
Donc, espagnol et latino-américain.
Voilà, mais aussi italien, puisque, Jacques, vous avez parlé il y a quelque temps de L'hiver du commissaire Ricciardi, Maurizio de Giovanni en étant l'auteur, eh bien, il sera aussi présent. Aussi, j'ai oublié, les auteurs argentins Ernesto Maglio et Carlos Salem. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, mais non, j'ai oublié de vous parler des deux lauréats du Grand Prix des littératures des policières qui viennent d'être décernés. Donc un grand bravo à Karim Misquet, qui chez Viviane Ami a fait paraître il y a quelques temps Arab Jazz. Et puis on est très très content que le Grand Prix de littérature policière côté étranger revienne à Donald Ray Pollock avec un roman formidable paru chez Albin Michel au printemps. Ce roman s'appelle toujours Le Diable tout le temps. Vous pouvez aller chercher sur notre site internet, il y a une longue chronique sur ce qui fut un de mes grands coups de cœur du début d'année 2012. Voilà, eh bien la première émission est déjà terminée. Jacques, on va vous dire au revoir.
Et puis, dans 15 jours.
Voilà, chacun dans son coin avec un bouquin. Au revoir.